Donc on a le référentiel d'activité professionnelle, hein, qui décrit le métier, le référentiel de certification qui décrit les modalités donc de certification, c'est-à-dire d'accès au diplôme. On va parler un petit peu de l'organisation de la formation. Donc cette organisation de la formation, elle ne concerne évidemment que les élèves qui préparent le diplôme sous statut scolaire, apprentissage ou voie scolaire. Donc on a la formation générale. Donc la formation générale, donc on a le module de culture générale et expression. On a deux langues vivantes. Alors, il y a eu un débat hein, sur la question des langues vivantes. C'est vrai que quand on a fait l'analyse, on nous a dit que finalement, les besoins étaient surtout en anglais. Hein, donc, c'est pour ça qu'on oblige qu'une des deux langues soit forcément l'anglais. Mais on a aussi, par d'autres consultations, vu que le rôle des deux langues, notamment dans l'interculturalité, était importante. Donc on a maintenu ces deux langues. Mais évidemment, au niveau de la certification, on a des modalités, enfin des coefficients de certification qui sont différents sur les deux langues. Et aussi, donc dans la grille horaire, on y reviendra plus tard, des modalités qui sont différentes aussi en deuxième année. Un module de culture économique, juridique et managériale, qui est donc un module qui est commun à plusieurs BTS, hein, qui est un module de 4 heures, on y reviendra tout à l'heure. On a bien sûr la formation qui est associée au bloc professionnel, et on a un certain nombre de dispositifs liés à l'acquisition de la professionnalité, qui sont les stages. Donc vous avez vu, on a augmenté la période des stages, notamment parce qu'on a voulu intégrer, comme j'ai dit tout à l'heure, un stage de début de formation. Et donc voilà, et on n'a pas voulu non plus empêcher des stages qui permettraient d'aller à l'étranger, puisque c'est quand même une des identités de ce diplôme. Ensuite, on a des ateliers de professionnalisation et de culture économique, juridique et managériale appliquée, dont on va vous expliquer le fonctionnement et des exemples de travaux. Et puis un module optionnel de parcours individualisé qu'on va aussi vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Moi, j'aurais aimé savoir, j'ai vu que pour les langues, les mêmes langues que dans le BTSAM ont été reprises, et donc il n'y a toujours pas le turc. Or, les bourses Erasmus permettent d'aller en Turquie. Et nous, je suis de l'Académie de Strasbourg, en Alsace, on a quand même beaucoup de jeunes qui demandent le turc en deuxième langue vivante. Donc pourquoi ne pas avoir ajouté le turc ?
Alors, cette liste, c'est une liste qui est, je crois, commune à plusieurs BTS. Mais je vais poser la question et si c'est possible, on fera une petite modification. Ah,
effectivement, sur les BTS pour la deuxième langue, il y a une liste qui a été définie pour l'ensemble des BTS tertiaires. Et donc, en principe, chaque rénovation, on respecte cette liste. Alors, il y a des questions dont je suis un autre BTS où se pose la question du néerlandais. Il faudrait remettre en cause l'ensemble de la liste. Et donc, ça, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Alors, ceci étant, pour terminer, je pense qu'il y a l'épreuve facultative.
Oui.
De langue. Donc, c'est possible pour la langue 3.
Merci, Alain. Donc, Alain Henriet, inspecteur général, membre aussi du groupe Économie Gestion. Je crois qu'il y avait une autre question de ce côté-ci.
Alors, bonjour, j'ai une petite question concernant culture économique, juridique et managériale. Vous avez dit que c'était commun aux autres BTS et que l'épreuve serait la même. Néanmoins, le nombre d'heures par section est différent.
Alors, ce dispositif de formation, enfin ce module, est offert pour l'instant dans trois BTS, le BTS négociation digitalisation de la relation client, le BTS gestion de la PME et le BTS support à l'action managériale. Ce module est de 4 heures dans ces trois BTS. Ce qui change dans les trois BTS, c'est la façon dont on personnalise culture économique, juridique et managériale dans le métier. Ce qu'on a appelé culture économique, juridique et managériale appliquée. Donc effectivement, dans les trois diplômes, ce sont des modalités pédagogiques différentes qui ont été choisies. D'accord ? Dans le diplôme, j'en parle maintenant parce que je sais que c'est un sujet d'interrogation important pour les enseignants. Ce qu'on a considéré, nous, hein, c'est que cette question de la culture économique, juridique et managériale appliquée, elle répond à trois besoins. Elle répond à un premier besoin qui est de situer le module commun de culture économique, juridique et managériale dans les activités professionnelles d'office manager. C'est un premier objectif. Il y a un deuxième objectif qui est que dans les blocs professionnels, il y a des contenus d'économie, de droit et de management qui sont généralement qu'on retrouve dans plusieurs blocs et qu'on pourrait travailler de manière concertée à travers des activités diverses dans les ateliers de professionnalisation. Deuxième objectif. Troisième objectif, il est parfois nécessaire d'avoir des approfondissements par rapport à culture économique, juridique et managériale globale pour, par exemple, des stages d'élèves, pour des projets d'élèves, et ce sera le rôle des ateliers de professionnalisation. Donc, comme on avait ces trois objectifs, on a trouvé que les ateliers de professionnalisation se prêtaient bien en co-animation au travail de ces trois objectifs. Donc, ce qu'on va vous proposer dans le référentiel de formation, c'est une progression pédagogique, enfin des éléments de progression pédagogique, on va pas être trop, on va être prudent, qui permettent de montrer que les élèves vont bénéficier effectivement de 6 heures de formation à la culture économique, juridique et managériale, à la fois à travers un module commun et à travers des éléments qui sont spécifiques. Et ces éléments spécifiques, on a choisi qu'ils soient travaillés en co-animation, parce qu'il faut qu'ils aient du sens par rapport à la profession. Le constat qu'on a fait quand on a installé ce module de culture économique, juridique et managériale, alors je vais un petit peu en avance par rapport à la présentation que va faire Jean-Bernard tout à l'heure, c'est qu'on a constaté qu'ils étaient complètement déconnectés, les 6 heures d'économie, droit, management étaient complètement déconnectés de l'activité professionnelle. Et donc ce qu'on a voulu faire dans ces 3 BTS, c'est de reconnecter l'économie, le droit et le management au métier. Et le choix qu'on a fait, c'est d'avoir à la fois un module commun et à la fois des contenus situés. Voilà. Et donc, effectivement, il y a eu des choix qui ont été faits de manière différente selon les BTS.
De façon concrète et pragmatique, tout à l'heure, au moment de l'animation de la table ronde sur la mise en œuvre des enseignements, vous aurez un exemple très précis. Sur l'exemple de l'atelier de professionnalisation, vous verrez le CEJM appliqué, en quoi là il a une vraie est remis dans un contexte professionnel donné d'office manager.
Donc, oui. Est-ce que je peux avoir une autre question? Oui. Je travaille au Centre national d'enseignement à distance et donc il faut qu'on soit au plus près de ce qui se passe en présence pour avoir cette passerelle possible. Et puis aussi, notre public est composé de formation initiale et formation continue. Donc, on va bien aller vers une présentation de nos propositions de nos formations par bloc de compétences. Je voulais m'assurer que les termes qu'on utilise pour les blocs de compétences, est-ce que quand il y a un livret scolaire de passage, ça correspond bien à ces termes-là? Est-ce que c'est ces termes-là aussi qui vont être utilisés, ceux du référentiel?
Alors, la question du livret, c'est le rôle de la circulaire d'organisation. Et je vous avoue qu'on n'a pas encore réfléchi à la circulaire d'organisation. Là, on aimerait pouvoir vous livrer à la fin du mois le référentiel de formation. Alors, donc en formation, donc cette logique bloc de compétences, hein, elle obéit à une volonté, effectivement, d'avoir divers parcours, à la fois d'apprentissage des blocs et à la fois de parcours dans le diplôme. En formation, donc nous, on écrit le référentiel de formation pour les enseignantes et les enseignants qui ont un objectif de formation au diplôme. C'est pour ça que c'est très important les stages, c'est très important ces ateliers pour donner du lien entre ces blocs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent être en formation sur simplement un bloc Et puis, il y a aussi des élèves de formation initiale qui, eux, vont vers le diplôme. Et donc, il faut qu'on ait des dispositifs pédagogiques qui mettent du lien entre les blocs. Parce que le métier est un métier global. Donc, la personne, elle ne se dit pas, ah ben, là, quand je travaille, je fais du bloc 1, je fais du bloc 2, je fais du bloc 3. La personne, elle est dans l'emploi, elle mobilise des compétences des trois blocs en même temps. Donc, ce lien, il est très important de le créer en formation initiale.
Alors, peut-être pour conclure cette présentation, juste rappeler que nous sommes donc sur un métier qui est au cœur de la gestion de l'information, des données, des collectifs de travail, avec cette dimension collaborative dont on a parlé. Et avec l'idée que ce métier est contributeur de création de valeur, ce qui est source de productivité et souvent méconnu. Hein, c'est un petit peu la problématique des fonctions support au sein des organisations. C'est un métier où, et j'allais dire une rénovation dans laquelle on a été attentif à gérer cette possible tension entre polyvalence et spécialisation. On le verra notamment avec le module GRH hein, dont on parlera cet après-midi, et avec des attendus extrêmement forts en termes de compétences du 21e siècle dont vous avez perçu notamment l'élément digitalisation hein, qui est au cœur de l'ensemble de ce dispositif ainsi que les problématiques de communication. Merci de votre attention.
Alors après donc, cette présentation très générale, on va rentrer donc, dans le détail des deux référentiels très importants dans ce diplôme. D'abord le référentiel d'activité professionnelle et ensuite donc le référentiel de certification.
Juste une petite remarque. Je reviens sur l'observation qui a été faite tout à l'heure par rapport au référentiel européen et au bloc de compétences. Donc effectivement, ce BTS a été un BTS à référentiel européen, et c'était d'ailleurs un des premiers, hein, quand ça a été travaillé en 2008. C'était la période où il y avait des groupes de travail européens. On réfléchissait sur un certain nombre de pays à définir de façon commune les caractéristiques d'un métier. Et ensuite, chaque pays, en l'occurrence pour ce qui concerne ce BTS de mémoire, il devait y avoir 8 ou 9 pays qui ont travaillé en même temps pour définir de façon commune des diplômes relativement similaires qui étaient reconnus au niveau européen. Il y a eu un changement de logique à partir des années 2010-2011 et les diplômes à référentiel européen, il y avait 4 ou 5 BTS dans le domaine tertiaire, ont continué leur vie, mais le dispositif référentiel européen, lui, il a disparu au profit des blocs de compétences. Et c'est une logique différente, puisque là, et là ça concerne tous les pays membres de l'Union, c'est une reconnaissance par bloc de diplômes professionnels. Et pour rebondir sur la remarque qui a été, la question qui a été posée tout à l'heure, quand les diplômes seront rénovés au fur et à mesure, il pourra y avoir des reconnaissances mutuelles entre systèmes ou entre établissements de formation au niveau européen, pour que le bloc professionnel 3 de SAM trouve une équivalence dans un autre pays membre européen et qu'il puisse y avoir des échanges d'élèves dans les deux sens. Des élèves, des personnes d'une façon plus générale qui souhaitent suivre le bloc et qui sera reconnu dans leur système et inversement. Et ça, c'est impulsé depuis 2012 au niveau de l'Union européenne.
Alors, j'ai demandé donc à Didier Lahaye, qui est donc IAIPR honoraire, qui donc nous a accompagnés durant cette rénovation, donc de nous présenter le référentiel d'activité professionnelle.
Le référentiel d'activité professionnelle, bon, je tiens tout d'abord à présenter peut-être mes excuses, parce que forcément, on va retrouver dans la présentation du référentiel d'activité professionnelle on va retrouver des propos qui ont été tenus précédemment, à la fois par Monsieur Lalande, mais aussi par Franck Brier, lors de la présentation justement du métier qui est couvert par le BTS SAM. Donc le RAP, donc juste avant d'entamer la discussion, juste se rappeler que ce qu'on appelle traditionnellement le référentiel est composé d'un certain nombre de parties, comme vous le savez. Hein, les référentiels du diplôme, il y en a deux. D'abord, c'est le RAP et le référentiel de certification. Ensuite, on a les modalités de certification, c'est-à-dire règlement d'examen et définition des épreuves. Et pour terminer, on a l'organisation de la formation, grille horaire, stage, atelier de professionnalisation, etc. Bon, donc la première partie, c'est le RAP. Une petite note d'humour pour commencer. Alors, qu'est-ce que les référentiels d'activité professionnelle ? Bon, ce référentiel d'activité professionnelle, donc c'est la base de la construction du diplôme. Hein. C'est la définition du métier. Donc, pour définir ce métier, ça a été dit tout à l'heure, donc il y a bien sûr au niveau du groupe de travail la présence de représentants de la profession. Hein, notamment, on a fait référence à Madame Jani, la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat. Il y avait aussi des responsables RH de grandes entreprises, deux en l'occurrence. Et bien sûr, à la CPC, même chose. Il y a des représentants du monde professionnel. On a consulté, bien sûr, le groupe de travail a consulté 18 DRH et les adhérents de la FFMAS, donc, ce qui a permis de compléter quelque part le portrait de ce métier. Les activités donc, qui vont être définies dans le SAM constituent la base de la construction du nouveau diplôme. Et puis le RAP, surtout, vous le savez, le RAP constitue donc la base de travail des personnes qui vont travailler sur la validation des acquis de l'expérience. Les grandes caractéristiques du RAP, d'abord le métier. Bon, alors quelque chose qu'on a retrouvé tout à l'heure. Donc c'est un collaborateur ou une collaboratrice d'une ou de plusieurs personnes. On travaille, comme on l'a dit tout à l'heure, en mode projet très souvent. Trois grandes missions qui se retrouvent systématiquement. L'organisation, l'interface entre différents acteurs et la coordination. Et bien entendu, vous le voyez là, il y a la communication en interne et avec l'extérieur. Donc on retrouve, et les professionnels insistent là-dessus, ça a été dit par Christine tout à l'heure, les compétences relatives à l'expression écrite et orale en français sont absolument fondamentales. L'adaptabilité qu'on va retrouver également, une adaptabilité donc, qui permet soit d'être polyvalent, soit qui permet à la personne de travailler en mode spécialisation. Les types d'organisation. Bon, on l'a évoqué tout à l'heure également. Bon, vous voyez que tous les types d'organisation sont concernés par le BTS SAM. Tout type, toute taille. Et vous avez donc à la fois les entreprises privées, publiques, les administrations, les associations et les structures relevant de l'économie sociale et solidaire. L'environnement de travail, donc ça a été largement présenté tout à l'heure, donc la dimension interculturelle avec l'ouverture à l'international, notamment la maîtrise de la langue anglaise, la digitalisation des activités, les statuts variés, vous le voyez, salariat, multisalariat, mais aussi entrepreneuriat, et ça se retrouvera dans le référentiel de certification et même dans la description du stage et des modalités de stage, puisqu'on a repris cette thématique dans ce cadre-là. Ce sera présenté par Madame Attali tout à l'heure. Donc, en résumé, les grandes caractéristiques du RAP, vous les avez ici. Bon, c'est grosso modo la synthèse de ce qu'on a pu présenter au niveau du métier tout à l'heure. Donc, les conditions d'exercice, le français et l'anglais, la posture métier, l'importance, bien entendu, du numérique. Et puis, le travail en mode projet, ça a été largement évoqué par M. Lalande. La définition du métier par le groupe de travail, donc à l'aide des professionnels, a abouti, ça a été dit tout à l'heure également, à trois domaines d'activité. Vous avez l'optimisation des processus administratifs, donc c'est le premier domaine d'activité. Vous avez ensuite la gestion de projet, c'est le deuxième, donc le DA2. Et le DA3, la collaboration à la gestion des ressources humaines. Ces trois domaines d'activité vont donc constituer le point d'appui des trois blocs de compétences qui portent exactement le même nom. Pour terminer, donc, une présentation du référentiel en tant que tel. Donc, on a systématiquement, pour la description donc, des activités donc, dans le cadre du RAP, trois pages. Et ceci, quel que soit le domaine d'activité, ici, il s'agit du domaine d'activité numéro 1. On a donc l'optimisation des processus administratifs. Voilà, on voit le domaine d'activité qui apparaît ici, donc le domaine d'activité optimisation des processus administratifs. Et puis, on a une description, on le voit dans le premier cercle, une description, en fait, de l'activité, en fait, du BTS SAM, enfin de la personne, donc titulaire du BTS SAM, pour donc l'office manager qui va prendre en charge cette optimisation des processus administratifs. Donc ce court paragraphe permet de décrire de manière très large l'action de la personne dans le cadre de ce domaine d'activité. En dessous, ce domaine d'activité va couvrir un certain nombre d'activités elles-mêmes. On a une décomposition donc, qui intervient. Bien entendu, cette décomposition va être prise tout à l'heure dans le référentiel de certification. Ensuite, les conditions d'exercice. Bon, je ne reviens pas dans le détail sur ce qu'a dit tout à l'heure Christine. Bien sûr, le contexte, les équipements, les données sont extrêmement importantes. J'insiste peut-être davantage sur l'autonomie et la responsabilité donc, de la personne qui a en charge ce domaine d'activité. Et enfin, les résultats attendus avec les résultats attendus en termes de comportement, les résultats attendus en termes de communication. Donc on retrouve ici des éléments transversaux auxquels on faisait référence tout à l'heure. Les résultats attendus en termes de production et gestion de l'information. Et enfin, les résultats attendus relatifs au domaine d'activité proprement dit. Voilà pour cette présentation rapide, puisque bon, un certain nombre de choses avaient déjà été évoquées précédemment. Mais bon, je suis disposé à répondre à vos questions. Alors, c'est une partie du référentiel qui est quelquefois lue de manière en diagonale, on va le dire comme ça, par les enseignants. Mais pourtant, c'est une partie extrêmement importante parce que ça correspond à la définition du métier et donc à l'objectif général de la formation que nous avons en charge. Des questions peut-être ?
Oui, cet après-midi, il va y avoir différents ateliers qui vont être présentés, mais la gestion de projet ne fait pas l'objet d'une communication particulière cet après-midi. Donc moi, j'ai une question par rapport à ce référentiel et notamment le principe du mode projet. À la page 15, quand on parle de l'autonomie et de la responsabilité, il y a marqué cas d'un projet accompagné ou cas d'un projet mené en responsabilité. Donc est-ce que cet aspect sera évoqué quand on va parler des ateliers de professionnalisation ? À savoir, qu'est-ce que vous entendez par projet accompagné dans le cadre de la formation et ce que vous entendez par mener en responsabilité ?
Bon, tout à l'heure, il y aura une présentation qui va être réalisée par Céline et par moi-même sur le domaine d'activité numéro 2 dans le cadre du référentiel de certification. On aura à la fois des illustrations et aussi un certain nombre de principes qui sont liés. Mais il est bien évident que même dans le cadre du métier attaché au BTS SAM, donc office manager, dans le cadre de ce métier, un office manager va à un moment donné soit accompagner un groupe projet et donc va être en appui véritablement, mais pour d'autres projets plus modestes, nous sommes persuadés, en tout cas les professionnels nous l'ont dit, que parfois ces projets peuvent être pris en charge complètement par l'office manager. Donc on a deux configurations différentes et on a essayé à travers le DA2, domaine d'activité, de décrire en fait les deux situations.
Oui, j'ai une autre question. On vient de parler de projet et moi j'étais un peu interloqué par le terme que je viens de voir, enfin que j'avais déjà vu, le terme dossier, gestion des dossiers en responsabilité. Et ça, je... Alors, si visiblement il est défini par un espace de travail, par des documents, par une communauté d'acteurs, mais ce terme dossier me paraît un peu imprécis, en fait. Est-ce que c'est un projet ? Ou est-ce que c'est une tâche ? Enfin, voilà, je ne sais pas.
Tout à l'heure, Estève va présenter donc le premier domaine d'activité dans lequel il y a la gestion des dossiers. La différence entre le dossier et le projet, c'est que le dossier, c'est une activité qui est récurrente, alors que le projet, c'est quelque chose de singulier. C'est ce qui distingue, effectivement, la différence entre le bloc 1 et le bloc 2. Donc Estève Auboué, IAIPR, Sophie Jacquier, professeure chargée de mission, qui font donc partie du groupe de travail.
D'abord, donc, la présentation du bloc 1, qui correspond également à un domaine d'activité, optimisation des processus administratifs. L'optimisation des processus administratifs a été placée en bloc 1 également parce que ça constitue le cœur de métier de l'office manager. Et pour constituer et aborder ce cœur de métier, il convient, en termes de formation, de le traiter à la fois via des contextes diversifiés, multiples, et aussi via des degrés de contribution qui vont devenir de plus en plus complexes au gré de la formation. L'idée, l'objectif général, c'est vraiment de développer chez l'apprenant une capacité à agir, à reconnaître, et ensuite à mener son action dans le cadre de processus organisationnels diversifiés.
Alors, il y a aussi une double compétence qu'on attend, c'est-à-dire des compétences bureautiques pointues, c'est-à-dire que là, il y a une spécialisation, il faut maîtriser de point de vue bureautique des aspects pointus, mais également une compétence digitale élargie aujourd'hui, avec de nouvelles applications, des outils nomades, et ces éléments-là qui amènent maîtrise des réseaux sociaux, tous ces éléments qui correspondent aujourd'hui à des tendances lourdes sur les entreprises. On avait aussi indiqué que... Un des autres aspects, c'est le développement de compétences relationnelles fortes. Et donc, au travers de ce domaine d'activité, eh bien, nous aurons un certain nombre de compétences relationnelles et de postures qui seront au cœur de la certification. Enfin, on voulait signaler que le développement de tout ce qui est intelligence artificielle et système ESPER font qu'on va voir encore des tâches qui sont aujourd'hui exécutées par des personnes au fur et à mesure disparaître. Et donc, l'office manager, il doit pouvoir gérer la complexité parce qu'il devra forcément répondre à de nouvelles problématiques de façon à pouvoir avoir de nouvelles compétences et un nouveau positionnement dans les organisations.
C'est en cela que ce bloc s'inspire à la fois des pratiques actuelles, mais également des pratiques émergentes que l'on a pu observer dans les organisations.
Alors c'est vrai que pour certains, on aura des remarques sur les lieux de formation, les lieux de stage. On entendra que parfois ça sera difficile par rapport aux objectifs. Il n'empêche que l'objectif, c'est de se projeter vers l'évolution, vers l'avenir. On avait la même réflexion il y a quelques années sur les PJI dans les petites organisations sur un autre BTS où il n'y en avait pas. Il n'empêche que 3-4 ans après, eh bien, ça a été généralisé. On est dans la même logique aujourd'hui. On s'attend à un basculement dans la dématérialisation, dans le développement d'outils numériques qui fait qu'il nous faut absolument former ces élèves vers ce que l'on aperçoit et ce que l'on perçoit déjà dans les grandes entreprises ou dans des entreprises du type start-up qui sont très très en avance sur ces domaines-là.
Donc le domaine qui se décline en 4 activités, c'était donc une démarche volontaire d'avoir une entrée par activité mêlant diverses fonctions. 3 axes transversaux principaux vont venir jalonner l'ensemble de ces 4 activités. D'abord, l'aspect interface du métier, c'est-à-dire établir et maintenir la relation avec les partenaires, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe. Également l'axe coordination, qui permet vraiment de planifier, de garantir une cohérence et une performance des processus organisationnels. Et enfin, l'organisation, là, on va plus aller sur la préparation des tâches, leur mise en cohérence, leur structuration, pour favoriser une efficacité globale de l'organisation.
Alors, on avait aussi, on voulait vraiment insister sur le fait que sur l'écriture, on est sur une écriture en termes d'activité. On n'est pas sur une progression pédagogique. puisque, en fait, à partir du moment où on est sur quelque chose d'itératif, progressif, eh bien, il y aura forcément des redondances, il y aura forcément des choses qui seront présentes de façon à des moments différents au cours de la formation. On avait observé, par exemple, que dans la gestion des dossiers en responsabilité, la prise en charge d'un dossier, eh bien, il va apparaître à différents moments de la formation parce que ça va répondre à des besoins qui seront des besoins qui vont monter en termes de compétences ou qui seront sur des domaines un petit peu différents à chaque fois. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir à chaque fois la cohérence entre interface, coordination et organisation.
Le niveau d'approfondissement en fait, de chacun des éléments va venir au fur et à mesure de la formation se complexifier justement dans cette logique itérative. Donc il s'agira vraiment, par exemple, par rapport à la tâche numéro 2, gestion d'un dossier en responsabilité, de mobiliser d'autres tâches, d'autres éléments des autres activités pour pouvoir le mener à bien. Cette tâche, justement, gestion des dossiers en responsabilité, représente vraiment le cœur du métier de l'office manager, dans le sens où on mobilisera à la fois des ressources intellectuelles, scientifiques et également comportementales. L'idée, c'est de solliciter à plusieurs moments, via à la fois des activités différentes, des missions hétérogènes, qui pourront mobiliser soit des compétences transversales communes, soit des compétences plus singulières à approfondir au fur et à mesure de la formation.
Alors, un petit focus sur les nouveautés, hein, sur le domaine de spécificité du domaine d'activité, la sécurité des lieux et des personnes, ça c'est important. On est dans des logiques aujourd'hui où les tensions qui sont que sur l'organisation, l'intrusion, les risques attentats, inondations et même neige, dirons-nous, sont des éléments qui doivent faire partir du métier. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler. L'exemple qui avait été pris tout à l'heure est tout à fait aussi intéressant sur un certain nombre de choses. D'exemple, hein, on ne met plus une clé USB de la même façon aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et ces soucis-là sont des soucis qui sont de plus en plus présents. La relation client-fournisseur-partenaire, client interne, client externe, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, mais ça peut aussi, sur un certain nombre de projets, devenir des partenaires. Donc cette notion de flou, elle n'est pas aussi tranchée que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté des clients, on n'a pas d'un côté des fournisseurs, on a aussi des partenaires qui interviennent et qui sont à un moment des clients, d'autres des fournisseurs, et puis à un certain moment donné, eh bien, ils deviennent des partenaires. Cette notion-là, elle est assez importante. On n'est pas là pour faire des collègues des office managers qui vont devenir des BTS NDRC. Hein, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'en fait, ils aient le souci et qu'ils interviennent aussi dans le processus de fidélisation et de valorisation de l'entreprise. S'ils font du filtrage, par exemple, eh bien, on n'est pas là pour filtrer, pour dire non. Non, on est là pour découvrir le besoin de la personne qui est en face, lui proposer une solution, de le noter, d'utiliser un outil pour noter, entre guillemets, pourquoi il est venu, etc., de façon à enrichir au travers des nouveaux outils numériques, d'enrichir la base de connaissances que l'on a sur la personne qui vient et dans l'organisation. Et ça, c'est assez important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le relie de façon importante au PGI ou au CRM, hein, de façon à montrer que ce sont des gens qui ont un souci. L'office manager, il a un souci de l'autre en termes de valorisation. Lui aussi, il n'est pas, entre guillemets, une fonction improductive. Vous avez dans un certain nombre d'entreprises anciennes où on voit marqué, on les met dans fonction improductive. Non, l'idée, c'est justement que ce ne sont pas des fonctions improductives, ce sont des fonctions qui peuvent être à l'origine de création de valeur dans la mesure où ce sont les personnes souvent qui sont en interface, les premiers. C'est donc l'image de l'entreprise et tous ces éléments-là doivent être pris en compte.
Alors, au niveau de la communication, les deux grands axes à noter sont le développement des supports multimédia. On va vraiment développer aujourd'hui plus seulement le traitement de données quantitatives ou de textes, mais également le traitement de sons, d'images et de vidéos qui ne sont pas forcément présentes actuellement, même si les pratiques d'enseignement évoluent aujourd'hui. Également les réseaux sociaux, puisque on sait aujourd'hui qu'il convient de valoriser l'entité, la faire connaître. Et en ce sens, on sait qu'un site web ne suffit plus aujourd'hui pour établir et maintenir la relation avec les partenaires. Donc ça, c'est le premier axe. Et le second axe, au niveau de la communication, c'est vraiment le renforcement des activités collaboratives qui va de pair avec le développement des organisations en mode projet, le fait d'être intégré parfois à plusieurs groupes projets simultanément, et à la nécessité pour ce faire de développer chez les jeunes des soft skills, donc des compétences comportementales pour acquérir la capacité à travailler avec les autres au sein de collectifs dans une logique d'efficacité.
Pour le dernier, production et gestion de la formation, il faut bien voir que aujourd'hui le système d'information, c'est la colonne vertébrale de l'organisation. Et ce système d'information, il est aujourd'hui accessible aussi bien sur le site, mais également en dehors du site. Donc tout ce qui va être sécurité, là, au niveau du système d'information, cela implique que le titulaire du diplôme, eh bien, il ait connaissance en termes d'habilitation, gestion des habilitations, règles de confidentialité, tous ces éléments-là doivent être travaillés par rapport à ces nouvelles contraintes qu'interviennent les outils nomades. C'est-à-dire que on renforce la sécurité et parallèlement, eh bien, on développe un certain nombre d'outils qui permettent justement d'affecter cette sécurité de façon plus importante. Enfin, sur les derniers éléments, donc, on doit mettre en place eh bien, une articulation entre ce système d'information au travers, il va être présent au travers de tout le domaine d'activité et il va devoir être traité de façon transversale et non pas indépendamment de l'ensemble du domaine d'activité.
Alors, les transversalités avec les autres enseignements du référentiel, notamment la culture économique, juridique et managériale, mais également les enseignements de culture générale et expression et langues vivantes étrangères. Globalement, en termes économiques, en tous les cas, les transversalités sont très nombreuses. Donc, elles seront traitées à la fois dans l'enseignement du domaine d'activité 1, mais elles seront nécessairement reprises dans le cadre des activités, des ateliers de professionnalisation, pardon. Au niveau économique, les échanges entre les agents pourront être mis en exergue, de même que la concurrence et les différents types de relations de coopération qui existent entre les acteurs économiques. Quelles sont les externalités positives ou négatives inhérentes à ces partenariats, mais également les choix en matière de production. Vaut-il mieux faire en interne, vaut-il mieux faire à l'externe? Voilà, la stratégie de l'entreprise pourra être travaillée également à ce moment-là. Également, le rôle de la CNIL, très important également. Et enfin, l'impact du numérique sur les organisations et sur l'environnement économique.
À titre d'exemple, hein, on peut imaginer que dans le cadre d'un dossier qu'ils ont à travailler, l'accueil dans le cadre de tourisme industriel, eh bien, l'office manager, eh bien, il a à préparer une présentation de l'environnement économique dans lequel se situe l'organisation. Et donc, ça veut dire quoi? Connaître le taux de chômage, connaître un petit peu l'évolution de la valeur ajoutée créée dans la zone. Donc, ça veut dire que derrière, il faut faire référence, il faut retravailler sur les aspects économiques. Sur les aspects juridiques, on avait un certain nombre de choses qu'on avait relevées. Tout ce qui va être la relation avec les interlocuteurs. S'il fait de la RSE, comme on a montré précédemment, eh bien, on va aussi s'intéresser aux conditions de recyclage. Ça veut dire qu'il faut qu'ils connaissent quels sont le rôle des collectivités, qui s'occupe, quelle est la compétence des collectivités, des communautés de communes, de la région, etc., etc. Donc ces aspects-là, ils doivent être retravaillés au travers de ces éléments-là. Et puis pour la partie managériale, il est clair que ça va vraiment dépendre aussi des lieux de stage dans lesquels ils vont être confrontés, enfin auxquels ils vont être confrontés, avec une vision, une confrontation des situations dans lesquelles ils vont se trouver. S'ils sont dans une association de l'économie sociale et solidaire, c'est pas la même chose en termes d'organisation que dans une administration ou que dans une grande entreprise. Donc c'est derrière là, les styles de management sont des choses qui vont être interrogées. Ce qui veut dire aussi de leur apprendre à différencier qu'est-ce qu'est un usager, qu'est-ce qu'un client interne, qu'est-ce qu'est un client externe, qu'est-ce que un adhérent, qu'est-ce qu'un sociétaire. Voilà, tous ces éléments-là renvoient à un certain nombre un vocabulaire qui fait partie, entre guillemets, d'une culture générale qui seront travaillés dans ce domaine d'activité, plus spécifiquement chez nous, parce que ce sont des éléments qui sont intéressants.
Oui, et qui peuvent finalement octroyer le rôle à l'office manager d'aide à la prise de décision ensuite auprès de l'encadrement. Pour la partie culture, donc à la fois en culture générale et expression et en langue vivante étrangère, les transversalités seront notamment d'ordre communicationnel, donc l'expression écrite comme l'expression orale, et également l'interculturalité qui est vraiment prégnante dans toutes les activités compte tenu de la dimension internationale du diplôme.
Alors, je ferai juste une petite référence à Olivier Houdet, un chercheur en neurosciences, qui rappelle que le développer des langues, eh bien, ça développe ce qu'on appelle un système, qui est le système d'inhibition. C'est-à-dire que ça évite le biais cognitif qu'on a parfois, que comme on fait chez nous, ben, c'est comme ça ailleurs. Ben non. En fait, plus on fait de langues étrangères, plus on est confronté à l'autre, eh bien, plus on est capable de mettre en place un système, ce qu'on appelle mettre en place des stratégies d'inhibition pour avoir une réflexion sur qu'est-ce qui va se passer, est-ce que l'autre est le même? Est-ce que comment ça va fonctionner? Et derrière, eh bien, c'est de développer ces compétences d'interface et de les élargir au contexte international.
La prégnance des outils numériques, qui sera également présente dans les autres domaines d'activité. Aujourd'hui, l'outil numérique est incontournable. Il est source de valeur ajoutée pour toute activité professionnelle. C'est ce qui est observé en entreprise et c'est ce qui va se développer encore. Donc, il s'agit bien de rester sur les outils bureautiques classiques qui vont constituer un socle incontournable, mais qui ne seront pas suffisants pour autant. Il va falloir également familiariser encore plus les apprenants aux outils, aux applications qui sont en ligne et qui sont beaucoup plus évolutives.
Alors, développement tutoriel, utilisation des fonctions vidéo, utilisation des smartphones, tous ces éléments-là sont des choses qui font partie aujourd'hui, alors d'abord parfois de leur fonctionnement. Hein. Ils peuvent travailler en mode collaboratif sur WhatsApp, etc. Mais il n'empêche qu'on le voit aussi se développer, enfin on le voit d'abord se développer en entreprise. Ça veut dire que derrière, il faut leur apprendre à utiliser ces outils-là, qui sont des outils qui leur permettent une réactivité.
On peut noter plusieurs catégories d'outils. Les outils de traitement de données quantitatives, il s'agit vraiment de renforcer la maîtrise sur le tableur, sur le traitement des données quantitatives, qui est incontournable et qui se retrouve dans l'ensemble des fonctions de l'organisation aujourd'hui. Et il semble quand même que les étudiants aient encore à progresser à ce niveau-là. Également... les espaces de travail collaboratifs, on a dit depuis le début de la matinée que le travail en mode projet se développe largement et indépendamment du domaine d'activité numéro 2, c'est le travail, les modalités de travail qui deviennent ainsi. Donc les espaces de travail collaboratifs, dans le cadre du domaine d'activité 1, ils pourront être mis en œuvre dans chaque activité dès la configuration de l'espace de travail, mais également dans le cadre de l'optimisation des processus, dans le cadre de la gestion de la relation client et fournisseur, qui sera également l'occasion de mobiliser le PGI et, à plus forte raison, le CRM.
Sur les outils bureautiques traditionnels, il y a aussi un développement des systèmes intégrés. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait d'un côté, on avait le Word, d'un côté, on avait l'Excel, etc. Aujourd'hui, quand on regarde les entreprises, ce sont des outils intégrés. C'est-à-dire qu'on a sur la même plateforme eh bien, les outils Skype que les outils qui sont présents traditionnellement, mais qui sont vraiment intégrés les uns aux autres et non pas dissociés. Ce qui permet justement d'automatiser un certain nombre de fonctions et de traitement automatique des informations. Ce qui veut dire aussi qu'on a des outils qui étaient utilisés qu'il faut sûrement oublier lorsqu'elles sont aujourd'hui complètement absentes des organisations. On pense à certains outils du type système de gestion de base de données relationnelles qui ne sont plus du tout utilisés dans les organisations au profit du développement. Alors, dans certaines, au profit de développement de... Oui, pardon, oui. Au profit de PGI. Oui, voilà. Mais au profit d'outils plus développés du type PGI, CRM, etc., même si derrière, bien sûr, il y a des éléments. Alors, je visais plus un programme, mais j'ai pas voulu le donner comme ça. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire que ces systèmes-là, aujourd'hui, ils sont très, très présents au travers des PGI et des CRM. Et c'est vraiment ceci qu'il faut développer, travailler. Voilà.
Également, les outils de dialogue. On a parfois encore l'habitude de beaucoup communiquer via la messagerie électronique. Est-ce que c'est forcément le support adapté aujourd'hui ? Il y a le chat, les forums, les listes de diffusion. Il y a vraiment d'autres modalités de discussion et d'échange qui peuvent peut-être être plus adaptées en fonction des objectifs. Les outils, donc autre catégorie d'outils, qui vont être là pour valoriser l'entité et l'organisation dans son ensemble, les réseaux sociaux, les sites web, éventuellement les médias sociaux également. Tout ce qui est outils de veille informationnelle, outils de gestion de l'information au sens large, donc avec la veille informationnelle, mais également comment archiver, comment stocker la donnée avec la question du cloud computing. Et enfin, la mise en situation la plus réaliste possible via la mobilisation de jeux sérieux.
Alors, jeux sérieux, de préférence des jeux sérieux qui seraient aussi et qui existeraient, qui seraient des jeux sérieux d'entreprise, qui seraient des outils aussi de formation dans des entreprises.
Oui, moi, c'est pas une question, c'est plus une réflexion, et notamment par rapport au dernier slide sur l'utilisation des outils numériques. Dans le monde de l'entreprise, on est sur des réflexes professionnels qui visent à l'immédiateté de la réponse, c'est-à-dire que je suis sollicité dans une organisation par messagerie électronique, par SMS, par réseau, et je réponds immédiatement. Dans les exigences de formation, et c'est plus une réflexion, il va falloir être très vigilant pour former nos étudiants à la portée juridique de la réponse qu'ils vont faire en utilisant ces systèmes-là d'information. C'est une réelle difficulté des entreprises actuellement à contrôler la sortie de messages numériques et l'entrée et le traitement de messages numériques. Donc je ne sais pas quel était le niveau d'exigence, je n'ai pas suffisamment approfondi le nouveau référentiel, mais en tout cas, il me semble que dans la formation des étudiants, comme dans la formation des professeurs, il va falloir être très vigilant sur la sensibilisation à ça. C'est-à-dire qu'on a toujours le réflexe d'être dans le traitement rapide de la sollicitation que l'on a, et l'envoi d'un SMS, l'envoi d'un message, la diffusion d'une information laisse des traces et a une portée juridique dont les étudiants et dont les professeurs n'ont pas forcément conscience. Donc je ne sais pas comment ça a été envisagé en termes d'exigence, mais ça me semble être crucial face à la multiplicité et à la souplesse offerte par le numérique. C'est une réflexion.
Dans le référentiel, c'est une préoccupation qui apparaît dans l'ensemble des blocs, notamment soit par les savoirs associés, qui sont effectivement le respect du droit à l'image, de la propriété intellectuelle, etc., soit qui se retrouve dans la troisième colonne du référentiel de certification, dans périmètre et responsabilité, où effectivement on met bien en évidence cette responsabilité juridique lors de l'usage des outils numériques.
Et cette partie, on l'a écrite suffisamment large pour qu'elle puisse prendre en compte l'évolution de la législation. De façon à... Et c'est une vraie contrainte, mais de toute façon, il faudra que ça s'apprenne.
Alors bon, je vais poser la question au nom de mes collègues.
Bien sûr.
Ils souhaiteraient savoir si vous avez envisagé les moyens pour accéder à tous ces outils. Voilà, pour les établissements, parce qu'on parle de nomades, de Wi-Fi automatiquement.
Alors, référentiel de formation. Il y aura un paragraphe sur effectivement la question de l'équipement des sections. Je suis allée vendredi dernier rencontrer la direction du numérique éducatif du ministère pour faire part de nos besoins. Mais bon, Olivier Delarue les montrera encore mieux. Pour faire part de nos besoins et à la fois en termes de paquet d'outils, effectivement, de mise à disposition de ces outils, avec l'intérêt que nous avons aujourd'hui avec l'informatique dans les nuages, donc le cloud, qui permet effectivement de mettre ces outils à disposition sans avoir à les gérer dans l'établissement sous un système d'abonnement. Donc, on a bien conscience qu'il va falloir donc équiper les sections, et donc on travaille avec la direction du numérique éducatif pour proposer des solutions aux équipes, ce qui n'empêche pas aux équipes de réfléchir à partir des solutions qu'elles ont dans leurs établissements avec d'autres sections. Nous avons par exemple une équipe bordelaise qui travaille sur EBP, parce que EBP est installé dans leur établissement scolaire, parce qu'il y a d'autres BTS qui utilisent cette solution. Donc il y a une question, il faut dans les établissements scolaires jouer la synergie entre les équipements des différentes sections. jouer la synergie des compétences, c'est-à-dire que par exemple sur l'utilisation d'un PGI ou d'un CRM, eh bien il y a peut-être des compétences dans d'autres BTS dans l'établissement auxquelles on peut s'adresser pour préparer justement ces séquences. Les établissements peuvent aussi solliciter leurs IPR et les IPR solliciter leur région pour voir comment financer effectivement ces abonnements. On est dans un peu au milieu du gué, c'est-à-dire que il y avait une séparation assez claire entre l'État et les régions sur le financement des équipements, qui était l'État finance les ressources pédagogiques, les régions financent les infrastructures. Quand on est sur un système de cloud, cette différence est un peu ténue. Donc il faut être capable d'aller la défendre auprès des régions pour qu'elles financent effectivement ces systèmes d'accès. À la fois le, on va dire ce qu'on appelle les tuyaux, c'est-à-dire disposer d'accès réseau qui permettent effectivement d'aller dans le cloud et de financer effectivement l'offre cloud. Voilà. Donc évidemment, on est très conscient et dès qu'on aura des solutions, on vous avertira, hein, on vous fera des propositions. Après cette journée PNF, Franck vous montrera qu'il y a un certain nombre de dispositifs de formation qu'on va vous proposer pour évidemment continuer à vous accompagner dans la mise en œuvre de ce diplôme.
Oui, je me permets d'intervenir. J'ai eu la chance de pouvoir intervenir, enfin en tout cas être formée sur un PGI type Cegid dans le cadre des BTS assistants de gestion PME-PMI. La maîtrise de ce genre de logiciel nécessite beaucoup de temps, mais ce qui est surtout extrêmement compliqué, c'est le paramétrage. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ce type de logiciel, il faut pouvoir avoir un informaticien qui soit à disposition, notamment au niveau du réseau, et qui puisse éventuellement aider pour récupérer des bases de données, genre...
Je vous arrête tout de suite parce que bon, c'est quelque chose qui est extrêmement connu hein, comme problème, c'est-à-dire le problème de la configuration et du peuplement des logiciels. On y réfléchit, évidemment, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Donc on va trouver des solutions.
Oui, j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, concernant la sollicitation des régions, si elle viendra de vous ou si elle doit venir de la base.
Alors, nous, on ne sollicite pas les régions. Hein, ce sont les IPR qui sont en lien avec les régions. Ou la DAFPIC. Oui, enfin voilà, il faut que, enfin les IPR savent comment solliciter les régions. Par contre, les équipes peuvent faire des projets, faire une liste de besoins, dialoguer avec leurs IPR pour que eux-mêmes puissent dialoguer, solliciter les régions.
Sur Orléans-Tours et la région Centre, puisque la région et l'académie se recoupent, on est en train d'évoluer vers un partenariat où la région sera le seul client de BP. Et donc, en tant que client EBP, l'équipement de tous les établissements qui en feront la demande sera acquis et sera poussé par le GIP qui s'occupe de ça, le groupement d'intérêt public. Donc voilà. Donc l'expérience de Bordeaux m'intéresse beaucoup.
Bien, on va peut-être passer donc à la présentation du deuxième bloc de compétences sur la gestion de projet. Donc, je vais demander donc à Céline Attali, qui est donc professeure et chargée de mission dans l'académie de Versailles, de venir avec Didier Lahaye, hein, qui sont donc tous les deux membres du groupe de travail.
Bien. Donc nous allons vous présenter à deux voix le bloc de compétences numéro 2. Donc sur la gestion de projet. Donc une présentation générale donc sur ce bloc de compétences. Le bloc de compétences est présenté de manière séquentielle. Et c'est extrêmement important parce que ça va avoir des conséquences pédagogiques. On y reviendra tout à l'heure. Donc on commence par la partie qui est en haut à gauche, donc la préparation du projet, qui est donc la première partie des activités qui sont prises en charge dans le cadre de ce bloc de compétences. Puis ensuite, on a la mise en œuvre d'une veille informationnelle, donc liée à ce projet. On passe ensuite à la conduite du projet, donc la conduite et le suivi du projet, notamment on connaît bien la gestion des contraintes liées à ce projet. Et on termine, bien entendu, par la partie, donc en dessous, par la clôture du projet, donc la phase de bilan, le bilan de projet, une étape extrêmement importante qui est quelquefois un peu négligée. Donc, les projets, simplement, je reviens sur la réponse que j'avais apportée tout à l'heure. Donc, les projets peuvent être soit de type projet mené en responsabilité pour les projets les moins ambitieux et porté donc essentiellement par l'office manager. On peut avoir une configuration bien, bien différente dans le cadre de projets beaucoup plus importants avec un groupe projet constitué, un chef de projet et en appui l'office manager qui va apporter ses compétences liées notamment à la mise à disposition des ressources informationnelles et en termes de coordination entre les membres du groupe projet. Alors la partie centrale est la partie extrêmement intéressante dans le sens où on reprend bien entendu ce que disaient nos collègues dans le cadre de la présentation du domaine d'activité numéro 1. Donc l'importance du digital, c'est noté, bon, vous l'avez bien, et Olivier Delarue reviendra sur l'importance du digital, tout bloc de compétences confondu tout à l'heure. Un processus d'apprentissage pour les élèves qui est itératif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancement du projet, hein, de cette séquence qu'on a décrite tout à l'heure, il va y avoir donc des apprentissages qui vont être progressifs. C'est indiqué également. On va revenir sur des notions, on va revenir sur des outils et donc on ira vers une complexité de plus en plus importante, bien entendu, entre la première année et la deuxième année. Donc il faudra bien, au niveau du suivi des projets des élèves, il va falloir bien entendu porter une attention toute particulière sur la complexité, faire en sorte qu'en début de formation, on ait des projets qui soient tout à fait gérables pour nos élèves en début de formation. Voilà pour cette présentation générale. On va rentrer un petit peu dans le détail sur qu'est-ce qu'un projet. Alors là, nous avons repris, et on va vous donner des exemples juste après, hein, Céline va vous présenter cela. On a repris un paragraphe extrêmement important qui décrit ce qu'est un projet dans le cadre de la description de l'épreuve E5 qui s'intitule elle aussi gestion de projet. Donc dans le référentiel, il suffit de s'y reporter. Donc il y a un certain nombre de caractéristiques. Alors ces caractéristiques, il y a d'abord répondre aux besoins d'une organisation. Donc il faut que dans un premier temps, et c'est une première étape qui correspond justement à la préparation du projet, il faut que l'étudiant soit capable d'identifier le besoin de son organisation, de clairement identifier quels sont les objectifs du projet, quels sont ses enjeux également. Et puis, deuxième caractéristique, il faut que le projet ait un caractère singulier pour qu'il soit un véritable projet. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, par exemple, d'imaginer que l'Assemblée générale d'une association qui a un aspect répétitif ne constitue pas véritablement un projet dans le sens où le projet doit avoir un caractère singulier, original. Donc voilà, c'est quelque part une grille qui permet de finalement guider les élèves vers qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce qui n'est pas un projet. Le fait qu'il y ait plusieurs acteurs, là aussi, hein, il va falloir aider nos étudiants à identifier les acteurs internes et externes au projet et ensuite mettre en place des moyens, des outils qui permettent de coordonner l'activité de ces acteurs qui vont participer au groupe projet. C'est extrêmement important également. Donc il faut que dans ce cadre, il y ait ça. L'étudiant doit couvrir le projet dans son ensemble, c'est-à-dire tout le cycle que j'ai décrit tout à l'heure avec la première diapo, de la préparation jusqu'à la phase du bilan et les résultats. Il doit permettre, alors là c'est quelque chose de beaucoup plus connu, que vous connaissez déjà bien sûr, ce projet doit permettre de gérer des contraintes, notamment des contraintes liées à la gestion du temps, à la planification des tâches, à l'expression des livrables, à l'évaluation de la durée du projet. Il faut aussi que l'étudiant, déjà dans la phase de préparation, identifie les risques. qu'il ait bien intégré les risques de manière à ce que, à un moment donné, il puisse, ça a été dit tout à l'heure par M. Lalande, qu'il puisse alerter le chef de projet lorsqu'il y a justement des risques de dérapage qu'il a pu identifier au préalable. Donc voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'il disposera d'une certaine autonomie. La gestion budgétaire, bien entendu, puisque dans le cadre du projet, de manière traditionnelle, on a une gestion budgétaire. Et puis, des éléments contractuels qui peuvent intervenir avec des partenaires, et notamment des partenaires extérieurs à l'organisation. Pour terminer, il faut que dans ce cadre du projet, et c'est logique, on mobilise des outils, que l'élève soit donc puisse mobiliser plusieurs outils, et bien entendu, on insiste de nouveau sur l'importance du numérique du digital. Et enfin, la phase de bilan du résultat, il faut que l'étudiant, à la fin de son projet, puisse évaluer les retombées pour l'organisation pour laquelle il travaille, pour les partenaires justement qu'il a identifiés précédemment, mais aussi retombées pour, en termes de aussi évaluation pour lui-même et pour le groupe projet. Est-ce que ce projet a été mené convenablement? Si on devait le refaire, comment on le fait? Voilà. Voilà pour cette présentation générale. Et je passe la parole à Céline qui va vous donner quelques exemples à l'instant.
Alors là, ça apparaît petit à petit, ouais. C'est ça alors pour les exemples de projets à mener, on s'est basé sur des entretiens, des interviews avec des professionnels du métier, manager ou office manager ou assistant. Et on a essayé de repérer quels seraient, parmi les exemples donnés, quels sont les projets que l'on pourrait confier à nos étudiants. On a établi une liste d'exemples, hein, mais évidemment elle n'est pas exhaustive, elle peut s'allonger. Et on a choisi de les diviser en trois critères. Je veux bien que la diapo soit affichée en entier. Il y a trois critères pour distinguer ces projets. Il y a le nombre de personnes qui contribuent au projet. Voilà. Donc on a le nombre de personnes. Donc on va avoir un étudiant, deux étudiants, un groupe d'étudiants. On va avoir la notion de projet accompagné ou projet en responsabilité, donc projet qu'un étudiant ou qu'un groupe d'étudiants peut mener en autonomie ou bien le professeur pourra jouer le rôle du manager à qui l'on doit rendre compte. Et le troisième critère, c'est important et on y reviendra tout à l'heure dans les modalités pédagogiques, c'est est-ce que ce projet peut être mené dans le cadre du domaine, du bloc de compétences du domaine d'activité 2 ou bien en stage en milieu professionnel. Voilà. Et du coup, voilà une liste donc de... Une liste de projets qui va peut-être du plus simple, c'est l'organisation de la visite d'une entreprise, voilà, qu'on peut organiser dès le début du premier semestre, à peut-être la plus compliquée, qui pourrait être par exemple la mise en œuvre d'une démarche de certification qualité ou la gestion d'un appel d'offres bien particulier. Voilà. On s'est mis d'accord tout à l'heure, on a donné une définition du projet très globale, mais je pense que pour mener ce domaine d'activité, pour confier, pour envisager des projets, il faut bien revenir à la définition toute simple du projet, qui est une date de début, une date de fin. Et puis des contraintes, voilà. Et c'est ce qui va différencier, on peut revenir aussi à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est ce qui va différencier le projet du dossier, c'est-à-dire que dans le dossier ou ce que moi j'appelle l'activité métier, on est essentiellement sur de la routine, sur des tâches répétitives, il n'y a pas de risque parce qu'on connaît ce qui va se passer, alors que le projet, on est plus sur des tâches bien spécifiques et peut-être la survenance de risques et d'imprévus. Voilà. C'est pas fini, c'est pas... Non, non. On a encore des choses à dire. Si Didier veut bien... Les modalités pédagogiques.
Modalités pédagogiques. Oui. Mais avant, il y a une question.
Oui, merci. Est-ce que ces projets sont fictifs, réels ou les deux?
Je peux
Alors, lorsqu'ils sont menés en milieu professionnel, ils sont réels. Lorsqu'ils sont menés en domaine d'activité, donc dans le cadre, dans l'environnement du lycée, ils sont réels, enfin, ils sont fictifs d'abord, mais ils peuvent être réels. On peut envisager de leur faire mener un projet, de leur faire conduire un projet dans le cadre d'un besoin. Voilà, du lycée, ça peut être... bon, il y a plein de choses. On a envisagé, par exemple, mais on en parlera cet après-midi, que dans les modules d'ateliers de professionnalisation, on peut envisager de leur faire réaliser une newsletter sur les nouveautés concernant le BTS-SAM, par exemple. Donc, c'est dans le cadre du lycée, mais c'est quelque chose qui est réalisé en réel. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut démarrer par distinguer, c'est stage en milieu professionnel et dans le cadre du bloc de compétences.
Oui. Si je comprends bien, vu comment est organisé l'enseignement, l'étudiant est capable de gérer un projet au terme de ses 2 années de formation.
Normalement, oui.
Oui. Or, les projets que vous nous proposez de les mettre en œuvre dans le cadre des TD du bloc de compétences. Comment l'étudiant est-il capable de mener ce projet alors qu'il n'est concrètement capable de le faire qu'au terme de sa formation? Comment on arrive à faire un TD où on demande à l'étudiant d'organiser le projet?
Je peux peut-être juste, pour répondre à votre question, je peux avancer sur les préconisations concernant les modalités pédagogiques. Parce qu'en réalité, sur ce bloc de compétences gestion de projet, la réelle nouveauté, ce n'est pas véritablement dans le contenu, mais c'est essentiellement dans la démarche que l'on va utiliser durant le cursus. Et au final, enfin, quand on réfléchit bien, un projet, on va avoir du mal à aborder cette notion de projet, cette notion de conduite de projet, de manière, comme l'a dit Didier tout à l'heure, juste avant, de façon séquentielle, c'est-à-dire classiquement une suite de chapitres. Donc, il est recommandé d'avoir plutôt une démarche itérative, apprentissage en double boucle, c'est-à-dire qu'on commence par des petits projets, mais qu'on fait mener peut-être du début jusqu'à la fin, et au fur et à mesure du cursus, on enchaîne sur des projets de plus en plus compliqués. Un tout petit exemple, par exemple, sur la notion de budget ou de tableau de bord, on pourrait envisager qu'en début de cursus, en début de premier semestre, on envisage que l'étudiant analyse, prenne connaissance d'un tableau de bord, donc, essaie de comprendre comment est structuré un tableau de bord. Et puis, en deuxième partie de cursus, en milieu de cursus, il est peut-être capable de commencer à définir certains indicateurs. Et en fin de cursus, il doit être capable, dans le cadre d'un un projet un peu plus complexe, de réaliser en autonomie le tableau de bord. Voilà. Donc, c'est vraiment, on n'est pas dans une approche outil, séquence, chapitre. On est vraiment dans une approche mode projet. Tout à l'heure, on a eu la confirmation par Monsieur Lalande, et c'est ce qu'on dira, je pense, tout au long de notre présentation, c'est que le travail en mode projet, il est un peu incontournable pour les futurs titulaires du diplôme. Voilà. Donc, du coup, dans les préconisations, c'est évidemment de les faire travailler pas seuls derrière leur ordinateur, mais d'essayer d'avoir une approche mode projet. Oui ? C'est bon ? Voilà. Donc, utiliser, bien entendu, la veille informationnelle, mais ça, on le verra tout à l'heure dans la certification, ça va être une partie de la certification du bloc de compétences gestion de projet. La conduite des enseignements, c'est bon, on viendra après. Faire acquérir au cours de l'enseignement gestion de projet, c'est donc dans ce bloc de compétences, mais ça je l'ai dit en répondant à votre question, dans le cadre du stage et dans le cadre du bloc de compétences classe entière et heure dédoublée du bloc de compétences du domaine d'activité 2.
Oui, il y a une conséquence forcément à l'aspect séquentiel du programme, c'est-à-dire qu'on aura automatiquement, on va étudier, et ça a été illustré par Céline juste à l'instant, et c'est extrêmement important, comme le programme est présenté de manière séquentielle, on va avoir recours à des outils de matière progressive, donc on va revenir systématiquement sur certains. Il n'est pas question pour nous de faire une première approche, le budget dans son ensemble, non, non. On va mettre en place un budget prévisionnel, puis ensuite le mettre en œuvre et mettre à jour les indicateurs, et puis ensuite en tirer les conséquences, mesurer les écarts et les analyses. Mais ça, ça interviendra par la suite. Automatiquement, tous les outils vont être mobilisés, même en termes de communication, même en termes numériques, bien entendu. Tous ces outils vont être utilisés au fur et à mesure, et donc mobilisés avec des entrées différentes, en fait, au fur et à mesure de l'avancement du programme. Mettre l'étudiant dans un contexte professionnel, bon, bien sûr, ça c'est assez classique, je ne reviens pas, mais c'est absolument essentiel puisqu'on est quand même dans un diplôme professionnel. Et puis, extrêmement important aussi, il faut que l'étudiant soit capable, en fin de formation, de choisir l'outil ou les outils les plus pertinents compte tenu finalement de la problématique de son projet et donc de ce qu'il veut faire. Bon, ça c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais ici c'est encore renforcé.
Au niveau des transversalités du domaine d'activité 2, il y a des transversalités inter-domaine d'activité, c'est-à-dire avec le domaine d'activité 1 et le domaine d'activité 3. Donc en ce qui concerne le domaine d'activité 1, qui est l'optimisation des processus administratifs, on a relevé que la coordination du travail, l'animation du travail collaboratif était transversale avec le domaine d'activité gestion de projet, ça semble évident, et également avec le domaine d'activité 3 qui est collaboration à la gestion des ressources humaines, tout ce qui est l'aspect relationnel, puisqu'en mode projet c'est donc une équipe, il y a donc des relations entre les différentes parties prenantes, et puis également tout ce qui est communication écrite et communication orale. Voilà. Et sur les transversalités, on y reviendra aussi tout à l'heure en atelier de professionnalisation. Et puis, comme dans le référentiel qui est exprimé donc en termes de critères de performance et de savoir associé en matière, en termes de communication et de gestion de l'information, donc voilà, la communication écrite, les systèmes d'information et une partie de la veille informationnelle. Transversalité également avec culture économique, juridique et managériale. Alors, en ce qui concerne la gestion de projet, ça va être essentiellement toute la réglementation qui entoure les flux d'informations et en particulier les nouvelles mesures comme la RGPD dont on a parlé tout à l'heure. Donc la transversalité juridique est plutôt importante dans ce domaine-là. Et managériale aussi, puisque le futur titulaire du diplôme, donc l'office manager ou l'assistant, et bien entendu l'interface entre le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, les usagers, et bien entendu le mode de management, elle doit l'avoir envisagé et elle doit l'avoir compris surtout pour pouvoir collaborer en mode projet.
Oui, une autre illustration de l'utilisation des concepts attachés à la culture économique juridique et managériale dans le cadre de la gestion de projet, c'est aussi bien sûr tout ce qui concerne le droit à l'image, par exemple, lorsque dans le cadre d'un projet, on utilise des images, justement. Voilà. Vous avez compris, donc, domaine d'activité, bloc de compétences, ils portent tous le même nom. Le troisième niveau qui porte le même nom, c'est l'épreuve E5, gestion de projet. Donc, ça a été présenté très rapidement tout à l'heure. Donc, je vais. Donc, une épreuve E5 qui est orale et pratique, qui prendra appui sur deux situations d'évaluation. L'une qui s'appuiera sur le compte-rendu de la veille informationnelle portant sur un des projets présentés par l'étudiant, et puis un autre, la conduite de projet, qui portera sur un dossier très simple, je ne vais pas faire le détail, où l'étudiant présente les deux projets qu'il a conduits et qu'il souhaite présenter à l'examen. Oui, sur la certification, forcément, il y a des questions.
Forcément, mais enfin... Rien que sur l'articulation pédagogique, j'ai une question. On a des heures de TD. J'ai vu sur le référentiel 2 heures de TD. 38 étudiants pour notre part en première année. On espère les garder puisqu'il ne faut plus qu'il y ait de fuite. 38 étudiants, un enseignant. Combien de projets à gérer sur 2 heures de TD? Quelle est la démarche pédagogique? Est-ce qu'on peut s'appuyer ou pas sur les ateliers de professionnalisation pour éventuellement articuler ces projets ou pas?
L'articulation des projets s'appuie essentiellement Bon, en gestion de projet, vous avez 2 heures plus 2 heures.
D'accord. Donc,
ça s'appuie. Ça a été dit tout à l'heure lors de la présentation des exemples.
Ça fait 4 heures, en fait.
Voilà.
Ça marche.
L'essentiel, normalement, il y a tellement de choses à faire en atelier de professionnalisation que la gestion de projet, normalement, avec 2 plus 2, on devra en avoir assez. Maintenant, tout à l'heure, ça a été dit, puisque Céline l'a dit, il était question d'une newsletter réalisée, par exemple, dans le cadre. Mais c'est à un caractère exceptionnel. Sinon... avec toutes les choses qu'on a à faire en atelier de professionnalisation et CEJM appliqué, ça va devenir impossible à faire.
Absolument.
Donc il faut vraiment, à mon avis, parle sous contrôle de Christine, mais limiter notre action sur les deux fois 2 heures.
D'accord.
Je voulais juste savoir s'il y avait des grilles ou des fiches, justement, examen pour accompagner.
La circulaire d'organisation, on n'a pas commencé la circulaire d'organisation. On va passer donc la parole à Gilles Gat, qui va vous parler du dernier bloc.
Alors, je vous propose de vous présenter donc le dernier domaine d'activité, donc le domaine d'activité 3 qui s'intitule « Contribution à la gestion des ressources humaines ». Hop. Donc je vais revenir un petit peu sur les justifications de ce choix d'un enseignement spécifique en gestion des ressources humaines, puisque vous le savez, dans le référentiel actuel, une partie de la GRH est explorée dans la finalité 5 et intervient seulement en deuxième année. Donc si nous avons voulu mettre dès le début de la formation une matière en contribution à la gestion des ressources humaines, c'est déjà pour la place croissante que prennent les RH dans les organisations et puis la décentralisation de ces activités vers le management opérationnel. La présentation qui nous a été faite ce matin par Christian Lalande était suffisamment claire sur ce point. Il y avait également une demande exprimée lors des questionnaires d'enquête auxquels nous avons toutes et tous répondu sur la place de la fonction RH. Bon, on le voit également quand on est jury en VAE ou sur des épreuves ponctuelles. On voit bien que cette thématique-là est bien présente. Et puis également, nous avons voulu avoir une lisibilité accrue sur le parcours de formation, c'est-à-dire ancrer la STS support à l'action managériale dans la filière éco-gestion au sens large, c'est-à-dire du moins 3 au plus 3, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement, comme le disait Christine ce matin, entre polyvalence et spécialisation, des points d'ancrage entre les différentes spécialités en terminal CGRH en STMG et puis les licences pro qui suivent nos BTS. Donc nous avons vraiment voulu cet ancrage-là. Donc, nous sommes sur une matière où les transversalités avec la CEJM sont évidentes. Je vais vous les présenter ensuite brièvement. Une approche aussi qui doit être clairement opérationnelle, et c'est le but de cette présentation, c'est-à-dire de vous donner les grandes activités qui composent le DA et de vous montrer de manière opérationnelle quels sont les attendus, pour vous montrer comment on est passé d'une vision plus administration du personnel, qui est celle actuelle de la finalité 5, à une gestion DRH qui met en avant davantage les problématiques actuelles de la relation, de la diversité, des parcours et des mobilités. Donc, à ce titre, voilà, hein, on veut clairement s'ancrer dans le CEJM, on veut clairement s'ancrer aussi dans le SIRH. Donc les logiciels de gestion intégrée sont véritablement importants pour l'approche opérationnelle ici dans ce bloc de compétences. Et puis bien sûr la communication, tant à l'écrit qu'à l'oral, sur du reporting, sur des entretiens, etc. On va le voir dans les quelques diapositives qui vont suivre. Donc, rapidement sur l'approche transversale, si nous balayons le programme de CEJM avec les grandes thématiques, nous posterons hein, de toute façon dans un document d'accompagnement tous ces éléments-là. Vous voyez que par exemple, le diapo n'a pas fonctionné. Normalement, il devrait s'afficher. Voilà. Lorsque l'on voit l'impact du numérique, tête numéro 4 et la vie de l'entreprise, on pense immédiatement aux bases de données, au SIRH et au recrutement. Lorsque l'on voit l'organisation de l'activité de l'entreprise avec les mécanismes de coordination, de contrôle, on voit venir aussi les styles de management, la motivation, l'implication. Donc en fait, cette thématique de CEJM va se retrouver de manière un petit peu également filée dans notre DA, ce qui donnera lieu à d'autres explicitations lorsque nous vous présenterons les ateliers de professionnalisation. Donc, comme l'a dit Christine ce matin, domaine d'activité égale plusieurs activités. Nous, dans le DA3 qui correspond à la contribution à la gestion des ressources humaines, nous aurons 4 grands axes, 4 grandes activités qui correspondront donc à une compétence à chaque fois bien ciblée. Donc une première compétence sur l'accompagnement au parcours professionnel. Et sur cette première compétence, nous avons voulu aller clairement sur une autre philosophie, plus loin que ce qui se fait actuellement en finalité 5, puisque nous intégrons dès le départ la notion de marque employeur et d'attractivité de la marque employeur. C'est-à-dire là où nous avions jusque-là l'habitude de travailler avec nos étudiantes et nos étudiants, le recrutement, l'intégration, nous voulons véritablement qu'ils prennent vraiment cette culture métier de la valorisation de la marque employeur. Donc opérationnellement, moi je vous propose de voir ces éléments qui vont s'afficher. Donc sur ce premier point, la gestion de la marque employeur et la e-réputation à travers notamment les médias sociaux. Sur ce qui est la contribution au mode et processus de recrutement à l'ère du digital, alors effectivement, de manière opérationnelle, nous travaillerons sur des fiches métiers, profils de poste, déclaration unique d'embauche, mais aussi des modalités de recrutement qui permettent de mettre l'accent sur véritablement les outils numériques, notamment via les plateformes, via aussi les médias sociaux, et que les jeunes gens aient vraiment, si vous voulez, cette culture-là du digital qui sera à la fois pour eux un ancrage dans le métier, une compétence métier, mais une compétence transposable dans leur parcours à eux également. Puisque ce qui est remonté dans les différents questionnaires d'enquête, c'est que les jeunes gens que nous avons en responsabilité dans nos sections croient maîtriser l'outil numérique et puis finalement ils le maîtrisent assez mal si l'on le considère à travers des compétences. Pareil pour la participation à l'intégration, livret d'accueil, tutorat, participation à des séminaires d'intégration. Nous avons aussi proposé sur l'accompagnement au parcours de mettre l'accent également sur les temps, sur l'employabilité et tout le parcours compétences du salarié. Donc véritablement que nos étudiants aient cette culture aussi de faire le lien entre emploi, compétences et employabilité. Ce sont des jeunes gens qui auront, tout comme nous, de la formation tout au long de la vie. Et il faut que cette culture-là, à travers les pratiques des entreprises, soit à la fois pour une culture métier et une culture pour leur parcours individuel. Donc nous proposons aussi de traiter cet axe-là à travers aussi les modalités de mobilité, y compris les mobilités externes, c'est-à-dire le départ du salarié. Mais pas forcément la démission ou les éléments, comme nous le voyons jusque-là dans le référentiel actuel, de voir aussi la démarche entrepreneuriale telle qu'elle peut être encouragée par les entreprises, par de l'essaimage, des contrats de sécurisation professionnelle, etc. Donc un premier axe sur l'accompagnement de la relation de travail. Un deuxième axe aussi qui se propose d'étudier la contribution à la gestion des ressources humaines à travers la contribution à l'amélioration de la vie au travail et toutes les problématiques de qualité de vie au travail. Alors si dans le référentiel actuel, nous avons cette idée dans la finalité 5, travailler sur l'ergonomie et brièvement sur les conditions de travail, nous voulons ici que la personne titulaire du diplôme soit clairement capable de poser un diagnostic notamment sur les risques, la sécurité, la santé au travail, et soit capable également de proposer des solutions de prévention et des solutions adaptées. Nous proposons également, sur l'aménagement des postes de travail, de voir un petit peu une approche de l'ergonomie, mais aussi de mettre en avant une notion beaucoup plus thématique actuelle des risques psychosociaux et des relations avec les organismes compétents, notamment pour avoir des labels, des certifications, intégrer des bonnes pratiques sur ces questions-là de la santé, de la sécurité et du bien-être. Et puis évidemment, sur tout ce qui va être l'accompagnement finalement à l'égalité, nous avons voulu, ou aux égalités, nous avons voulu clairement ancrer dans le programme cette culture des diversités, ces défis contemporains du management des ressources humaines qui vont porter sur des éléments comme finalement les égalités, les diversités, les parcours, notamment en espérant que nos étudiants puissent participer à des démarches de mise en place de chartes éthiques, de mesures de promotion des égalités et des diversités, entreprises et handicap, égalité femmes-hommes, etc. Donc ce deuxième axe sur la contribution à l'amélioration sera ensuite suivi d'un troisième axe sur les relations sociales. Les dernières évolutions, et là on voit la transversalité avec la matière juridique, les différentes évolutions de cet automne sur le droit du travail mettent l'accent vraiment sur l'entreprise comme territoire du droit négocié et donc du droit construit entre les différentes parties prenantes. Donc nous avons voulu intégrer ça également. Et dans cette démarche, nous attendons également que nous puissions développer des compétences opérationnelles claires comme la gestion de l'agenda social, les calendriers prévisionnels, les obligations d'affichage, de négociation avec les institutions représentatives du personnel. Sur ces élections professionnelles, en deuxième point, on veut véritablement que le futur office manager ou la titulaire ou le titulaire du diplôme
l'assistant, etc., soit capable aussi de prendre toute sa part sur l'organisation des élections professionnelles. Et nous l'avons dit tout à l'heure, 50% des titulaires du diplôme actuel évoluent dans des PME. Et c'est d'autant plus important que voilà, il peut, le titulaire ou la titulaire du diplôme peut être ici véritablement un soutien, un support à ce dialogue et cette organisation-là. Nous proposons également, bien sûr, la préparation et le suivi de la négociation sociale, et notamment ici, la participation à la rédaction et aux accords d'entreprise. Et qui dit négociation dit risque finalement parfois un petit peu de conflictualité. Nous proposons également, et là c'est une transversalité avec la communication également, que les futurs titulaires du diplôme soient capables de proposer des argumentaires, des éléments de langage dans le cadre d'une négociation préparée. Et enfin, un dernier axe, toujours sur ce domaine-là, la participation à la performance sociale, donc dans un premier axe, un suivi et une analyse des indicateurs sociaux. Donc ici, ça va être véritablement tout ce qui concerne les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de la performance RH, de la performance sociale, et notamment la capacité à réaliser des tableaux de bord, à les interpréter, à être dans une démarche d'audit, de reporting et de proposition de solutions. Donc ici, bien entendu, comme dans les autres activités, le logiciel de gestion intégrée est vraiment moteur et vraiment un outil qu'il faudra mobiliser. Je vous présentais quelques modalités très brièvement tout à l'heure, vous comprendrez mieux. Bien entendu, on retrouve aussi quelque chose qu'on avait aujourd'hui dans la finalité 5 et qui fait partie aussi de ces missions déléguées que l'on peut confier dans la gestion des temps de travail, congés, annualisation, mais aussi les mix modalités. On voit aujourd'hui que le télétravail, c'est même une solution quand il y a des aléas. Un aléa climatique, un aléa dans les transports. Cette gestion des temps, voilà, c'est une culture métier. C'est une culture aussi que les jeunes gens, de toute façon, doivent avoir. Donc toujours pareil, ce double gain que l'on a souhaité intégrer dans cette approche-là. Bien entendu, pour tout ce qui va être la démarche d'appréciation des compétences, qui dit GPEC dit une phase d'analyse de l'existant, une phase d'analyse des besoins, une projection sur les modalités. On retrouvera ici tout ce qui est démarche compétences, plan de formation, accompagnement au plan de formation, etc. Et puis, bien entendu, une contribution aux besoins de formation et aux mobilités avec tout ce qui est la participation au bilan de compétences et aussi l'évaluation et le retour sur tout ce qui va être les actions de formation proposées par l'entreprise, par l'entité. Donc voilà très brièvement les attentes opérationnelles que l'on peut visualiser. Et alors bien entendu, on sait bien que aussi cette démarche GPEC, alors on sait qu'elle est obligatoire dans les entreprises sur un certain seuil, je crois que c'est 300 salariés, voilà. On sait aussi qu'elle va se développer dans les prochaines années et qu'on veut l'étendre clairement aux entités de moindre taille. Donc c'est vraiment un point clé ici. Alors sur ces grands axes, sur ces quatre grandes activités qui composent le DA, nous avons voulu mettre en avant l'ère du digital et vous proposer notamment pour chaque activité de bien visualiser les outils numériques que vous aurez à mobiliser avec les étudiantes et les étudiants. Donc tout ce qui est médias sociaux, site web de l'entreprise pour la notoriété, l'image et les réputations, mais aussi la notion de logiciel de gestion intégrée, de SIRH pour tout ce qui est base de données, processus de recrutement, dématérialisation des procédures. Bien entendu, nous avons aussi en transversal la veille juridique et la veille numérique, donc, et là, sous un axe juridique. Donc, ici, sur cette. Pourquoi on a insisté sur l'ère du digital ? Pour répondre aux pratiques et besoins des organisations, et puis je le répète, pour véritablement aussi favoriser une culture et une pratique du numérique pertinente et raisonnée chez nos étudiantes et nos étudiants. Voilà. Sur le référentiel de certification, comme l'a expliqué Christine ce matin, un domaine d'activité, donc c'est plusieurs activités qui renvoient chacun à une compétence. Ces activités cumulées représentent un bloc de compétences qui donne lieu à une épreuve. Pour nous, ce sera l'épreuve numéro 6, contribution à la gestion des ressources humaines, avec une épreuve de 4 heures, donc qui reposera très brièvement sur une notion de diagnostic, une approche sur de l'existant, et puis ensuite de proposition de solutions chez l'étudiant. Merci.